Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, allez, on va traverser la Méditerranée pour aller à la rencontre d'un jeune homme, un jeune Marocain du monde, un papa d'aujourd'hui, ma version homme. On y va.
Médien. Yasmine, version homme.
Yassine Daoudi, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci infiniment d'être ma version homme de femme d'aujourd'hui. Comment ça va Yassine?
Ça va très bien et toi? Et merci à toi pour l'invitation, c'est vraiment un honneur pour moi.
Merci infiniment. Alors, quand tu te présentes, qu'est-ce que tu dis? Humoriste ou chauffeur Uber?
Alors, je dis de plus en plus humoriste maintenant. Oui. J'arrête de dire chauffeur Uber.
Pendant longtemps, c'était que chauffeur Uber?
Pendant longtemps, pendant on va dire 4 ans à peu près de ma vie. Puis une fois que j'ai switché vers l'humour, j'ai mis un peu de temps à m'adapter, à m'imprégner de cet art-là. Et du coup, maintenant, là, je rentre dans une phase où ça se professionnalise, alhamdoulilah. Et donc, du coup, je le dis de plus en plus maintenant, humoriste directement.
Alors, est-ce qu'on switch vers l'humour ou bien on assume, on finit par assumer l'humour?
Alors, c'est vrai aussi qu'il y a une part où il faut assumer, parce que en vrai, l'humour, c'est pas du jour au lendemain que tu te dis je vais me lancer dans l'humour. Moi, on va dire, ça fait depuis que j'ai à peu près 7-8 ans, je crois, que j'adore ça. Que j'adore ça, vraiment, regarder des spectacles, les Gad Elmaleh, etc. Tout le monde est passé par là. Tous ceux qui font de l'humour maintenant, je pense, sont passés par là. Regarder des gens faire à la télé, etc. Et donc, depuis tout petit, je savais que je voulais faire ça. C'est vraiment une passion que je voulais faire. Après, bien sûr, il faut à un moment donné assumer sa passion. Et c'est ça qui est plus compliqué. Ça veut dire qu'on se met des barrières à nous-mêmes. Je pense qu'on est les premiers obstacles à notre passion.
Okay.
Donc à partir du moment où on assume ça, on switch justement dans l'autre monde, le monde où on vit vraiment un truc passionnel. Et ça, c'est magnifique.
Alors, on va y aller petit à petit. Toi, tu es né au Maroc, c'est bien ça?
Exactement, oui, tout à fait.
Et à quel âge tu es parti en France? Casablanca, ok. À quel âge tu es parti en France?
6 ans et demi. 6 ans et demi, je suis parti en France.
Ok. 6 ans et demi, donc on a ses souvenirs, en fait, de son quartier, de sa vie d'avant.
Ah, mais clairement, des souvenirs indélébiles, je vais dire, parce que c'est vraiment ancré en moi. Et même si j'ai quitté le Maroc à 6 ans et demi, mes parents, on retournait au Maroc, mais tous les ans. Il n'y a pas eu une année où on n'a pas été.
Mais à 6 ans, quand on part, on est comment, en fait? Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on peut être nostalgique à 6 ans? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 6 ans quand il change de pays comme ça?
À cet âge-là, de toute façon, on apprend à suivre ses parents. Donc, les décisions, elles viennent des parents. Et donc, nous, de toute façon, on ne fait que suivre, on s'adapte. Et c'est vrai qu'il y avait une part de nostalgie aussi parce que... Tu vis des moments forts avec ta famille, notamment avec mon cousin, avec qui j'étais vraiment très, très fusionnel et je le suis encore aujourd'hui. Et donc, du coup, j'ai ces souvenirs-là de lui et moi qui allions à l'école ensemble parce que c'était mon année de CP, je crois, au Maroc.
Absolument. 6 ans, c'est le CP, oui.
Voilà, exactement. Et donc, je me souviens très bien de ces moments-là où on allait à l'école ensemble, on revenait de l'école ensemble. Enfin, j'ai vraiment ces souvenirs qui sont ancrés en moi. Donc, quand tu pars... Ouais, il y a un petit peu quand même un petit pincement au cœur, mais tu en gardant le contact, etc. Et puis t'es avec tes parents, tu t'adaptes forcément.
Ouais. Alors quand on part justement à 6 ans, c'est-à-dire on n'est pas né là-bas, à quel moment on se sent appartenir à cet autre pays d'accueil?
Moi, je vais te dire, c'est très simple. Moi, c'est très simple. L'équation est très facile. Je suis marocain à 100%. À partir du moment, de toute façon, où j'ouvrais la porte de la maison, moi j'étais au Maroc. J'étais au Maroc. Et puis ma mère, elle a bien fait ce travail-là de pas nous laisser oublier justement notre marocanité. Et c'est ça qui est très difficile aujourd'hui quand je vois d'autres Marocains comme moi. Et elle a bien fait son travail, ce qui fait que je ne me suis jamais posé la question à me dire je suis autre chose que Marocain. Je suis, on va dire, citoyen français, donc de par le respect de la loi, de par le travail, etc. Donc la vie de tous les jours. Donc tu peux très bien citoyen, respecter la France, mais être marocain d'histoire et de culture. Et ça, c'est prédominant. Donc c'est ça qui me fait dire, moi, je suis marocain. Je parle darija couramment, je parle même berbère, parce que avec ma mère, c'était darija quand on parlait dans la vie de tous les jours. Mm. Et quand elle était énervée, elle s'énervait en berbère.
Ouais.
Du coup, là, tu sais que là, c'est fini pour toi. Et donc, du coup, franchement, ça, je lui en suis très reconnaissant, parce que j'ai maintenant, moi, ce rôle-là parce que j'ai des enfants.
Ouais.
Et je sais que c'est très difficile, c'est très compliqué. Mais on essaye de maintenir le truc. Il ne faut pas du tout que ça se perde, mais c'est un truc qui me tient vraiment à cœur.
Alors, je ne sais pas si tu as déjà eu cette discussion avec elle, mais je ne sais pas si c'était réfléchi de vouloir, à ce moment-là, préserver la culture et l'identité marocaine au sein du foyer, ou bien c'est tout ce que savaient, en fait, ces femmes. Parce qu'à travers les discussions que j'ai pu avoir avec les Marocains du monde, ceux qui sont restés très ancrés dans la culture marocaine, c'est en effet à la maison. On me dit souvent, comme ce que tu as dit, quand j'ouvre la porte, je suis au Maroc. On parle darija, on mange marocain, voilà. Et à l'extérieur, c'est autre chose. Mais je ne sais pas si ces femmes, si ces mamans, à ce moment-là, étaient conscientes ou si c'était une démarche consciente, réfléchie, de préserver la culture, ou bien finalement, elles sont arrivées avec leur famille, elles ont continué à vivre comme elles vivaient au Maroc, en fait, à l'intérieur de leur foyer.
Ouais, je pense qu'il y a une part des deux. Je pense qu'il y a une part des deux. Il y a une partie où je pense que c'est pas du tout réfléchi, parce que c'est juste ce qu'elles sont. Et
oui.
Donc, du coup, elles transmettent ce qu'elles sont. Parce qu'il y a, je pense pas que tout le monde se dit dès le départ, je veux que mes enfants gardent ça, je veux pas qu'ils se perdent. Parce que, en vrai, on sait pas ce que ça va donner plus tard. Donc, on avance avec le cours de la vie en se disant, bah voilà, moi, je parle juste à mes enfants. C'est pas vraiment pour dire, il ne faut pas qu'ils oublient ou quoi que ce soit. Mais il y a aussi, je pense, une partie où on ne veut pas vraiment que les enfants, parce qu'on parle beaucoup d'assimilation en ce moment, etc., s'assimilent à une autre culture en oubliant la leur.
Donc, je comprends, mais alors Yacine, pardon de t'interrompre, je comprends par rapport à toi aujourd'hui avec tes enfants, parce qu'il y a cette prise de conscience de l'assimilation, etc. Mais quand toi, tu es parti avec ta famille, je pense que ça devait être dans les années 90, c'est ça?
Ouais, c'est ça, exactement. 1994, exactement.
1994, voilà. À ce moment-là, il n'y avait pas encore tous ces discours-là. Et donc, c'était... Voilà, on change de pays, on va dans un autre pays, on va apprendre peut-être une autre langue, on va découvrir une autre culture. Mais il n'y avait pas la peur de la déperdition de la culture propre, initiale.
Bah, moi, en fait, pourquoi je te dis ça? Parce que je sais qu'à la maison, on avait toujours ce petit truc-là. Par exemple, même quand on regardait la télé ou quand on voyait des gens dehors, etc. Tu sais, les petits exemples comme ça où genre, tu sais très bien que...
chez toi, c'est pas possible.
Père... Non, mais ton père, s'il te voit, par exemple, je sais pas, rentrer à la maison avec une boucle d'oreille, ce qui était normal, par exemple, quand tu voyais un Français dehors, mettre une boucle d'oreille, pour eux, c'est rien. Mais moi, rien que cette petite chose-là, par exemple, peut être perçu comme de la déperdition, entre guillemets. Donc, tous ces petits signaux-là que tes parents t'envoient, alors peut-être que c'est pas conscient, mais c'est juste que toi, tu l'intègres un peu comme ça en te disant, bah, je vais me perdre si je deviens comme ça, ou si je vais vers ça. Donc, du coup, c'est pour ça que je te dis, il y a peut-être une petite part où c'est un peu réfléchi, peut-être, ou et 90%, dans 90%
c'est spontané.
C'est juste comme tu as dit, voilà, c'est spontané, c'est ce qu'ils sont et ils te transmettent ce qu'ils ont, quoi.
Mais j'imagine que ta génération à toi de parents aujourd'hui est un peu plus, c'est pour vous, un peu plus délicat.
oui, très très délicat. Parce qu'en fait, moi je vais te dire, autant moi à la maison je parlais donc arabe et berbère avec mes parents, autant ma femme, c'était pas pareil. Avec sa mère, par exemple, c'était plus français que... Elle parlait plus souvent en français que arabe. Et même eux, ils sont lycéens, donc c'est un peu plus compliqué pour Delija.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est la maman qui reste avec les enfants le plus.
Ouais.
Tu vois, donc même si moi, je suis un peu sur les routes, etc., quand je suis là, j'essaye, tu vois, parce que de toute façon, il faut absolument que les sonorités, elles soient présentes, qu'ils soient habitués à entendre l'arabe, même si ils le pratiquent peut-être pas aussi bien que moi, je le pratiquais à leur âge, mais au moins qu'ils s'habituent aux sonorités, etc. Mais je sais que c'est un peu plus compliqué parce que bah, je ne suis pas là à 100%. Et puis ma femme, c'est plus compliqué aussi pour elle parce qu'elle a un peu de timidité, parce qu'elle croit qu'elle ne parle pas très bien, alors que je l'ai déjà entendu, elle parle très bien d'Elisa. C'est juste que voilà, elle a un peu de timidité et puis surtout la facilité. Tu sais, des fois, quand tu ne réfléchis pas, ton cerveau, il part direct vers la langue que tu utilises tous les jours dans le travail, etc.
Absolument.
Donc, c'est plus facile. Mais ils sont encore jeunes, donc ça va, ouais. Je parle pas. Et je les emmène voir ma mère le plus souvent possible, comme ça, ils font des petits stages
de dérive.
Exactement.
Alors. Justement, le fait d'être parti avec ta famille à l'âge de 6 ans, donc j'imagine que c'est une grande décision de vie pour tes parents. C'est une décision, j'imagine, à ce moment-là aussi pour offrir à l'époque un meilleur avenir à ses enfants. Est-ce que ça a contribué justement au frein de ne pas te lancer dans l'humour? Parce que quand on fait de l'humour, c'est un peu être le pitre. C'est pas forcément réussir sa vie. C'est pas forcément ce pourquoi les parents se sont sacrifiés, ont quitté leur pays.
Alors, moi, je ne vais pas te mentir, je n'avais pas du tout cette pensée-là à l'époque. Moi, ce n'était pas une question d'être perçu comme un pitre ou quoi que ce soit. Parce que, de toute façon, l'humour dans la famille, sincèrement, ce n'est pas pour dire, mais moi, j'ai grandi avec ça, surtout avec ma mère. C'est vraiment la femme la plus drôle de la famille. Je ne vais pas aller... Pour pas qu'on me dise que j'en fais trop, mais juste au moins de la famille, ma mère a toujours eu ce rôle là, tu sais, de malgré ce qu'elle a vécu, parce que voilà, les histoires, etc., elle a pas eu une vie très très facile, mais malgré ce qu'elle a vécu, elle a toujours su dédramatiser avec humour et elle a toujours su garder ce petit côté là, cette imitation, etc., ce qui peut être rien au départ, mais quand tu vois ça, peut-être que tu te dis ouais, ça, bah, quelque part, si je fais ça moi plus tard, c'est pas une mauvaise chose, parce que j'ai vu de toute façon ma mère en rigoler, rire de ça, etc. Et c'est pas quelque chose où tu te dis oui, je vais être perçu comme un pipre. Non, c'était pas ça. Okay. Le frein pour moi, il était plus géographique, parce que par rapport à là où je suis, enfin où j'étais, où j'ai grandi en France, tu sais, nous on voyait que Paris. À l'époque où moi je grandissais et que je voulais faire de l'humour, on voyait que Paris. Et donc du coup, quand tu te dis à cette époque-là, je veux faire de l'humour, mais Paris c'est loin, tu te freines tout seul. Parce que pour moi, Paris c'était un monde à part. En dehors de c'est une grande ville, etc. Pour moi, c'était un monde à part. Et pour moi, il fallait absolument connaître quelqu'un ou que quelqu'un te prenne
pour réussir là-bas.
Voilà, exactement. Donc du coup, c'est ça qui faisait plus peur que être perçu comme un pitre.
Alors aujourd'hui, justement, aujourd'hui, comment, j'imagine quand on est chauffeur Uber, comme toi, c'est un boulot à plein temps. Voilà. Mais quand on a envie aussi de vivre de sa passion, de professionnaliser sa passion, les journées, elles s'accumulent à combien d'heures?
Oula, heureusement, je ne compte pas tout le temps, parce que sinon je deviendrais... Mais ça va tourner, on va dire, 6 heures de travail en moyenne. Et après, quand tu fais de la scène, donc déjà le temps de préparation, et puis ensuite le trajet pour y aller, et puis là-bas, il faut te concentrer, etc. Et puis l'après-scène, parce qu'il faut que tu sociabilises avec les gens aussi, surtout après avoir joué, parce que tu aimes bien discuter, etc. C'est des journées de 12 heures faciles, hein. 12-13 heures. Et après, il y a aussi le temps où tu fais que y penser. Donc pour moi, en vrai, c'est 24 heures sur 24, j'arrête pas d'y penser.
Alors, par rapport à tout ça, justement, un jour, tu t'imagines basculer complètement et uniquement dans l'humour, tu peux faire vivre ta famille avec ça?
Ah ben oui, oui, oui. Bah, de toute façon, là, ça a déjà commencé.
Ouais.
Je ne fais plus Uber autant que je faisais au début. Là, c'est vraiment de temps en temps quand je peux. Mais là, à partir du mois prochain, je serai donc 100%, on va dire, dans l'humour, 100% professionnel, entre guillemets. Et donc là, ça sera plus facile. Ce sera beaucoup plus facile que de jongler entre deux métiers. Donc forcément, tu n'es pas souvent là, etc., pour la famille. Là, au moins, tu te concentres sur ça. Et même si tu te concentres aussi sur l'humour, eh ben, y a des moments où tu es amené à te déplacer parce que tu bouges beaucoup. Et donc, oui, je ne sais pas si ma femme va gagner au change parce qu'elle me dit à chaque fois que je ne suis pas beaucoup là, malheureusement. Mais...
Oui, exactement. Mais je ne sais pas si tu... Je ne voulais pas aborder cette partie-là, non, justement. Justement, parce que voilà, ça fera de toi un papa moins présent encore moins présent qu'avant.
Ouais. Mais sincèrement, je fais vraiment l'effort d'être là le plus souvent possible. C'est-à-dire que dès que je peux, je rentre à la maison, même si je joue vraiment très loin, si j'en ai la possibilité, dans la soirée même, je peux rentrer. Donc je prends beaucoup ma voiture pour être libre, pour pas être, tu sais, dépendant des trains, etc.
Ouais.
Je me dis, même s'il y a beaucoup de kilomètres, je les fais en voiture, et puis comme ça, je peux rentrer direct après, et être là le matin pour voir mes enfants, aider ma femme, etc.
Alors, justement, quand on est dans une, quand on est déjà installé dans la vie, toi, tu as une famille, une femme, un foyer, et quand on décide de se lancer dans une passion pareille, est-ce qu'on prépare son couple aussi? Est-ce qu'on s'assoit ensemble pour en parler, ou bien c'est plutôt la passion qui l'emporte?
Alors, je vais te dire, Yasmine, tu as plutôt même intérêt à t'asseoir et en parler, parce que si tu ne prépares pas ton, le terrain, là, tu peux être confronté à des incompréhensions de ta femme, et ce qui est totalement compréhensible, hein, parce que les métiers comme ça, donc, où c'est une passion, ben, on peut foncer la tête dans le guidon et se dire, bon, ben, de toute façon, moi, c'est ma passion. Peu importe ce qu'elle pense, peu importe ce qui arrivera, moi je vais le faire. Mais tu vas te heurter aussi à une personne derrière que tu n'as pas mis dans le process, et donc du coup, bah, qui peut ne pas comprendre certaines choses, etc. Et à juste titre. Mais moi j'ai eu la chance avec ma femme, c'est qu'avant même de commencer, j'ai bien préparé le terrain parce que j'en parlais déjà. Quand on regardait des spectacles ou quand on regardait de l'humour à la télé ou sur YouTube, etc., je disais, j'aimerais trop faire ça. Et c'est même elle qui m'a encouragé. Et grâce à elle, j'ai eu le déclic, grâce à elle et à mon fils surtout, parce que moi, c'est quand j'ai eu mon premier fils, c'est quand il est né que je me suis dit, mais moi, en vrai, j'aimerais bien que mon fils puisse faire ce qu'il a envie de faire dans la vie, mais comment lui prouver que tout est possible, qu'il peut réaliser ses rêves, si moi-même, je me bloque pour réaliser le mien? Moi, je ne suis pas honnête avec moi-même.
Ouais.
Donc, je lui dis, pour lui prouver qu'il peut, je vais moi-même me lancer, même si c'est compliqué, pour lui montrer que ça marche pas, peu importe, je m'en fiche, mais lui montrer au moins que papa a tenté, papa a fait. Voilà, exactement.
Exactement.
Et c'est là où le déclic est venu.
Alors, tes sujets de prédilection, justement, pour finir sur une touche d'humour, comme on dit, littéralement.
Moi, en fait, le métier du beurre, j'adore, parce que t'as des anecdotes, mais à n'en plus finir. C'est-à-dire, à chaque fois que je sors, de toute façon, il se passe un truc, il se passe quelque chose. Donc, mon vrai sujet de prédilection, c'est ça. C'est mon métier de chauffeur, la rencontre avec les gens, parce que les gens sont tous différents. Et donc, du coup, t'as des interactions qui sont parfois très drôles. Alors, je grossis aussi le trait parfois même pas du tout. Parfois, je dis vraiment les choses telles quelles. Et donc, du coup, c'est ça qui me fait rire, et donc, du coup, qui fait rire les gens. Et aussi, moi, j'aime bien le storytelling, donc raconter mon histoire personnelle, en y apportant des petites touches d'humour. Donc, c'est ça que je fais sur scène. J'essaie vraiment d'être original en racontant ma propre histoire.
C'est ça. Mais une fois que tu auras justement épuisé les anecdotes d'Hubert, parce que justement, tu seras plus chauffeur, après, tu iras chercher l'inspiration où?
Bah là, en fait, je fais déjà ça, parce que sur le Uber, on va dire, ça va me prendre 10 minutes, 15 minutes maximum de mon spectacle. Mais en dehors de ça, je parle d'autres choses, tu vois, de mes études, de comment j'ai appris l'anglais.
Comment tu as appris l'anglais, justement?
Alors, l'anglais, en fait, je vais te dire un truc, je vais le révéler à toi, Yasmine. Mais bon, ce que je dis dans le sketch, je dis que je l'ai appris en allant en Inde, mais c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout, c'est juste parce que j'aimais bien l'accent indien, je regardais beaucoup de vidéos et j'avais une facilité à le refaire. Donc du coup, voilà, les films, les vidéos, et même les humoristes, il y a un humoriste qui s'appelait Russell Peter que j'adorais. Et donc du coup, je regardais tous ces sketchs, etc., toutes ces vidéos, et lui, il parle un peu avec l'accent indien de temps en temps, parce qu'il est canadien de base, enfin il est né au Canada, et donc du coup, je reproduisais ça. Et alors qu'en vrai, non, je l'ai appris parce que j'ai été aux États-Unis pendant 6 mois, et puis à l'école j'adorais cette matière là enfin voilà, mais sur scène je dis que je l'ai appris en allant, et c'est ça qui me fait rire. Mais je parle aussi de plein d'autres choses.
En tout cas, merci infiniment Yacine Daoudi d'avoir accepté de jouer le jeu de version homme, et c'était un plaisir de discuter avec toi.
En tout cas, c'était vraiment un plaisir de parler avec toi, puis d'avoir cette petite tribune pour me présenter. Et merci beaucoup.
Avec plaisir Yacine. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien, et à tout moment, à la demande et en avant-première, sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.